Awon et les hommes. Donc c'est le dernier film d'Aung San-Suu qui sort le 16 octobre et auquel nous allons consacrer maintenant l'intégralité de ce qui reste du podcast. Donc c'est pas l'intégralité, c'est une partie.
Ah, prévoyez toute la nuit, quoi.
Voilà, exactement. Bon, on va voir combien de temps ça dure, mais si vous avez une heure devant vous, c'est plutôt pas mal. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire une petite présentation du film, donner notre avis, et ensuite en parler un peu plus longuement. En indiquant qu'on va faire une partie avec spoiler. Donc voilà, et comme c'est pire que du Shyamalan, on vous le dit, ce film d'Awon et les hommes, quand on vous dit voilà, on en parle avec des spoilers, soit vous allez voir le film, soit vous l'avez vu et vous continuez de nous écouter. Donc je vais résumer le film, puis après vous allez me dire ce que vous en avez pensé. Awon, c'est une jeune fille rêveuse qui est étudiante en cinéma et qui veut devenir actrice. Enfin, on ne sait pas exactement ce qu'elle étudie, mais en tout cas, elle veut devenir actrice. Et les hommes du titre, c'est surtout son professeur avec qui elle entretient une relation qui touche relativement à sa fin et quelques inconnus qu'elle va croiser autour des mêmes lieux.
근데 이 감독하고 사귀니?
누가 그런 말 하고 다니니? 선생님, 내가 미친 것 같아요?
어? 아니야, 아니야. 너 너무 너무 예뻐. 너무 너무 예쁘다, 진짜.
Do you know, you have a great physical resemblance to my daughter. Your face and,
my face
and your eyes. Yes.
My eyes?
Yes.
Sure? Really? Thank you.
그럼 하자. 어? 어차피 본것 같으니까. 야, 우리 그냥 길에서 우연히 만난 걸로 해.
혜원이가 좀 특별해요.
아, 그래요? 난 진짜 모르겠던데, 특별한지.
쟤 혼혈이에요.
그래서 네가 다른 애들하고 좀 다른 것 같아. 그러니까 너도 살라고 머리 쓰거든. 이렇게 쓰는데 약간 좀 덜 머리 굴리는 것 같아.
쟤 너무 잘생기지 않았니?
예쁘게 생겼네.
사는 건 죽어가는 거야. 하루하루 조금씩 죽음을 향해서 가는 거라고. 그러니까 아끼지 말고 너 하고 싶은 대로 하고 살아. 나처럼 살지 말고.
그렇게 살 수 있어요.
Voilà, que vous a inspiré ce film? Sidi, peut-être, est-ce que ça t'a plu?
On va commencer très sérieusement. Tu penses qu'il y a une référence à Hélène et les garçons ou pas dans la traduction française?
Alors ça, c'est assez étonnant parce qu'effectivement, ouais. le titre original, c'est Nobody's Daughter, Awon, donc qui n'a absolument rien à voir
d'accord,
avec...
La fille de personne,
voilà.
Ouais,
donc... Et c'est une thématique qui est importante dans le film, on va peut-être y revenir. Ouais. Mais en tout cas, ouais, c'est... C'est étrange, peut-être les traducteurs fascinés par Hélène et les garçons. Donc.
Ça donne une piste de réflexion, je pense. Donc, où est-ce que je pense de ce film? C'est une question que je me posais avant de le voir, quoi. Est-ce qu'il y a encore quelque chose à attendre de ce cinéaste-là, dont on aime, enfin si on aime au départ son style, sa manière de raconter les histoires entre rêve et réel, je pense qu'on ne sera jamais totalement déçu par un de ses films, c'est-à-dire même les films... qui, à mon sens, sont les moins intéressants, tels que Hawke's Movie.
Ouais, c'est celui que j'allais évoquer, justement, pour des films un peu mineurs sur lesquels il fait ses gammes.
Ouais, oui, voilà. Il y a quand même des scènes assez épiques à l'intérieur.
Il y a toujours quelque chose, voilà, à prendre.
On en tire toujours, voilà, quelque chose.
Si on a le goût de ça, je pense qu'on ne peut pas être totalement déçu. Et j'ai jamais, je pense, vu de films d'Aung San-Suu totalement déceptif ou totalement décevant. Maintenant, Awon et les hommes, je l'ai vu deux fois. Une première fois lors du Festival Paris Cinéma, où je dois avouer que je dormais un petit peu, et pour ce que j'en avais gardé, j'avais le sentiment d'avoir vu un Hong de plus. Voilà, mes confrères me disaient que c'était un grand film, et moi je restais un petit peu sceptique en me disant « oui, mais bon, so what ?» Et maintenant, après l'avoir revu il y a deux jours, je me rends compte que c'est effectivement un film qui fait montre de... peut-être d'une respiration dans son cinéma que je n'attendais plus forcément. C'est pas du tout un film conceptuel. Enfin, vous pouvez me contredire si vous n'êtes pas d'accord.
Moi, j'allais dire comme quoi, c'est pas un film de festival, hein, contrairement à ce qu'on dit souvent des films d'Aung San-Suu, puisque en festival, donc la première vision t'a paru décevante. Hein, alors que finalement, c'est la deuxième vision en salle qui t'a.
Enfin, j'étais surtout très fatigué quand je l'ai vu. Ouais, ça m'a.
C'est okay, en
voilà.
Festival,
voilà, c'est. Non, mais c'est vrai que pour l'avoir donc vraiment vu cette fois-ci, voilà, j'ai été agréablement surpris par son côté très épuré, très très ligne claire, très linéaire. J'ai eu l'impression qu'il désirait vraiment ce film, qu'il suivait son personnage principal sans aucune forme d'ostentation. Voilà, je sais pas si vous avez quelque chose.
Cette épure, on la retrouve dans son cinéma qui va de plus en plus vers ça, j'ai l'impression. Enfin, les précédents depuis Har, à mon avis, il y a un sens de l'épure qui est amené, qui est aussi dû au mode de production, très certainement. C'est-à-dire qu'il a. Bon, dans la deuxième partie, on reviendra un peu sur son œuvre, mais très rapidement. Il a commencé vraiment par faire des films dans le système de production coréen. C'était le cas pour Le jour où le cochon est tombé dans le puits. Et peu à peu, il est complètement parti de ça pour faire des films dans une indépendance totale, avec des budgets de plus en plus réduits. Il a 10 jours avec tel acteur, telle actrice, une équipe, et il y va. Et c'est vrai qu'il y a cette forme d'épure qui, à mon avis, est aussi liée au fait de s'extraire des modes de production classiques du cinéma coréen.
Et ça date des Femmes de mes amis, non ?
Ça date des Femmes de mes amis, ouais. C'est à peu près l'arrivée du zoom dans son cinéma qui doit être dû au fait de... Bon voilà, je suis libre, je peux faire n'importe quoi. Donc
il y a son traitement cinématographique, son approche à la manière de tourner, où il rédige le scénario sur ses petites fiches le soir, qui donne aux comédiens le lendemain. Donc ils sont obligés d'être super concentrés sur le scénario pour construire le récit.
Oui, il y a ce côté, en fait c'est un côté aussi journal intime qu'on retrouve quasiment depuis le début, qui est particulièrement présent dans Night and Day, In Another Country, où voilà, les jours apparaissent sur l'écran, c'est presque les jours de tournage qui inventent le scénario au fur et à mesure. Et c'est vrai que là, on retrouve un petit peu cette impression, effectivement, de liberté et de laisser respirer un personnage sur toute la durée d'un film, et de suivre un peu ses aventures de manière très simple. Alors, je dirais quand même qu'il y a ce côté ligne claire, mais le film m'a semblé un peu plus, peut-être un peu plus oppressant et un peu plus lourd que ses précédents films, notamment In Another Country, A.A., Bon, Kiss Movie, c'est un peu à part parce qu'effectivement, on a plus l'impression que c'est trois courts-métrages qui sont assemblés pour un long-métrage. Et The Day He Arrives.
Je dirais que ce film a une portée sociale, surtout dans le traitement de l'une des thématiques qu'on voit, que Hong Sang-soo a l'habitude d'être un petit peu plus implicite dans son traitement, qui est sur le contexte social coréen, sur la place de la femme dans la société coréenne, et toutes les relations qui interagissent avec, par exemple, les formes d'adultère qu'on retrouve dans le cinéma de Hong.
Ouais, mais ça c'était déjà présent.
C'est vraiment dit d'une manière beaucoup plus explicite.
Comme quoi, par exemple? C'était un...
Par exemple,
précis,
La question du mariage, qui est abordée de manière très claire.
Tu le vois très bien. Aewon, elle incarne vraiment la femme qui est d'un amour qui est forcément impossible, puisqu'elle ne pourra jamais avoir une relation avec un homme marié coréen à long terme. Mm-hmm. Sauf que là, j'ai l'impression que c'est dans les dialogues, c'est vraiment exprimé de manière explicite. Et il y a aussi toute la position sociale d'Aewon. Quand par exemple elle arrive à la librairie et qu'il y a un jeune homme qui fume et qui sont devant la librairie, en fait devant un étal de livres, ils sont en train de consulter des livres, et il y a un jeune homme à côté qui fume une cigarette qui lui dit vous pouvez acheter ce livre à n'importe quel prix, donnez ce que vous avez. Et elle répond mais si je paye, ils vont savoir qui je suis.
Et ça va en dire beaucoup sur moi.
Ça va en dire beaucoup sur moi. Et j'ai trouvé cette phrase vraiment assez lourde de sens, on va dire, au niveau du contexte social coréen. Bon, et donc je trouvais que dans le film, ça se reflétait assez bien, et de manière vraiment explicite, et je sais pas si Hong a voulu vraiment justement marquer assez lourdement cette thématique, je sais pas, pour ouvrir une piste de réflexion.
Après, mais j'ai l'impression, un peu comme d'habitude dans son cinéma, c'est une piste qui est assez contradictoire, parce qu'on apprend des choses sur Hong. Au début, elle parle d'argent avec sa mère, et sa mère lui dit l'argent c'est pas important, on peut en trouver.
Après Jane Birkin, elle a un rêve d'actrice. Oui. Elle a l'impression d'un peu de s'ouvrir au monde, c'est plus une anti coréenne en fait, au niveau elle veut absolument être une actrice, c'est-à-dire jouer un rôle entre guillemets, donc vraiment sortir du vraiment ça, mais en même temps elle veut jouer un rôle, mais en même temps la femme coréenne joue un certain rôle dans le contexte social coréen.
D'accord, donc ça va au-delà de l'argent. Parce que justement, dans ce côté contradictoire, elle dit à sa mère qu'elle n'a pas beaucoup d'argent,
Et dans une scène suivante, des étudiants parlent d'elle un petit peu dans son dos, et ils disent voilà, qu'apparemment elle est blindée, et qu'elle a énormément d'argent, sa mère venait la chercher en Porsche. Donc il y a aussi peut-être ce côté-là, qui est aussi contradictoire. Finalement, on ne sait pas du tout quelles sont les origines sociales du personnage, on ne sait pas d'où elle vient.
Et on apprend qu'elle est métisse aussi.
Voilà, c'est un champ mêlé aussi. Ouais. Je ne sais pas si c'est vraiment un aspect que le réalisateur a voulu mettre en avant. Et je reviens sur tes contradictions. Ce qui est marrant, c'est que Aiwan, tout le long du film, a peur du regard des autres, mais en même temps, elle véhicule un regard sur elle différent de ce qu'elle pense. Là, on peut le voir. Voilà, on en reparlera dans l'une des scènes clics qui est aussi la scène où justement ils sont tous avec les étudiants autour d'une table.
Ouais.
Et justement, quand on parle, quand ils disent qu'elle est riche, et que, alors que ça vient en contradiction à la première scène où justement la mère d'Awan dit justement qu'elle a pas d'argent. Donc j'ai l'impression qu'elle véhicule.
C'est-à-dire qu'elle est différente, il y a une différenciation par rapport aux autres.
Elle a une différence de personnalité pour les Coréens, enfin pour son entourage, lui dit que finalement elle a aussi une différence au niveau à l'échelle sociale.
Est-ce que ça voudrait dire qu'elle n'est pas honnête avec elle-même ou que ce sont les autres qui sont plus lucides qu'elle-même sur ce qu'elle est?
Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une distorsion dans son esprit, quoi.
Mm-hmm.
C'est. Ouais, en fait, elle voudrait être quelqu'un, mais en même temps, elle culpabilise. Elle a des désirs qu'elle culpabilise, c'est-à-dire d'être avec le professeur de cinéma. Mm. Je me rappelle plus de son nom, par contre.
Moi, je sais pas, j'ai trouvé. Enfin, voilà, je suis pas trop d'accord avec vous, parce que je trouve que c'est elle qui est le moins dans le faux semblant. Enfin, finalement, c'est elle qui veut pas mentir. Elle sort avec son professeur qui est à la fac. Donc son professeur d'université de cinéma qui est aussi réalisateur, lui a une enfin est marié, donc c'est une relation extra conjugale, on comprend quand on voit le film, certainement par rapport à la fac et aux autres étudiants. Il veut surtout pas que les autres apprennent qu'il a une relation avec cette étudiante, et il fait tout pour le cacher. Donc lui lui propose de jouer un rôle, et elle est très très mal à l'aise avec ça. J'ai l'impression que c'est plus le regard des autres étudiants qui la met en porte-à-faux avec ce qu'elle est, alors qu'elle essaye d'avoir une certaine forme de sincérité dans sa vie. Et d'ailleurs, ses rêves sont très simples, très linéaires par rapport à ça. Et comme on va parler de rêves, maintenant, sans rien vous dire, alors si là, avec Shyamalan et les rêves, vous n'avez pas compris, vous pouvez aller voir le film. On va un petit peu spoiler sur le film, donc il vaut mieux avoir vu le film pour la suite de la discussion. Mais Sidi, pardon, t'allais dire quelque chose.
Oui, je voulais dire, oui, c'est ça. Ça reste quand même un personnage facile d'accès, si je puis dire. C'est pas une fille compliquée, Ewan. En tout cas, on la suit sans se dire que c'est une fille particulièrement névrosée. C'est vrai qu'elle est portée entre un certain réalisme sur sa situation, que ça soit sa relation avec ce professeur, voilà. Et puis effectivement, elle se donne le droit de rêver, notamment lors d'une séquence, je ne sais pas si on peut en parler tout de suite, de rencontre avec...
La valise peut être activée, je peux y aller.
Avec un autre professeur, qui est un professeur coréen qui étudie dans une université américaine.
C'est ça.
Et voilà, elle se permet de rêver justement d'exil, voilà, elle se permet de se laisser un peu prendre par l'idée du mariage avec cette espèce de prince charmant venant de nulle part. Donc c'est une fille qui... comment est-ce qu'on pourrait... C'est une fille de son temps, c'est une fille qui ne se distingue pas particulièrement de ses camarades, mais qui, et c'est peut-être ce qui en fait une héroïne intéressante, s'accorde aussi le droit de ne pas être totalement... enfermée.
Ouais, conforme à la société.
C'est ça, conforme à sa situation.
Cas, elle a des envies d'ailleurs. La première scène, elle croise John Birkin, c'est une scène dont tu as parlé, qui est aussi une citation certainement de In Another Country.
Oui.
Donc on va peut-être un peu revenir sur les thématiques des citations des propres films d'Aung Sang-soo. Sa mère est partie au Canada. On sait que son père, éventuellement, qui est la grande figure absente du film, a étudié ou a enseigné à l'étranger. Et il y a ce professeur sur lequel elle fantasme un rêve de mariage, qui lui donc enseigne aussi à l'étranger. Et donc il y a peut-être cette thématique des origines aussi qui est posée en creux, c'est-à-dire que elle est peut-être métisse, donc c'est un truc qu'on apprend dans le film. On parle pas du tout de son père, on sait pas d'où. On voit sa mère qui est coréenne, donc son père doit être étranger. Et finalement, il y a à la fois un désir de sortir de la Corée, donc un désir d'extérieur, et qui va de pair avec une recherche aussi de ses propres origines, sur lequel on ne sera pratiquement rien dans ce film. Et c'est assez troublant parce que cette figure du professeur Prince Charmant est quand même beaucoup plus âgée qu'elle. Enfin, il a la cinquantaine, il étudie à l'étranger. Elle pleure quasiment le départ de sa mère au début, donc c'est aussi une figure de substitution paternelle qui arrive dans la deuxième partie du film avec qui lui propose un mariage qu'elle est prête à accepter. Donc il y a aussi quelque chose d'assez et dans cette partie on va apprendre à la fin du film qu'on est dans un rêve, donc quelque chose d'assez étrange aussi là-dedans. Mais pour moi c'est très lié plus que les hommes en tout cas du titre et le Nobody's Daughter du titre anglais me semble le plus important. Le fait en tout cas de la recherche d'une appartenance à la fois familiale et à la fois un groupe social dans lequel elle serait pas exclue par ses pairs, notamment ses camarades à l'université.
Il m'a convaincu, quoi. Non mais c'est vrai que j'avais pas noté ce point de vue-là, mais ouais, je rejoins ton avis, quoi. Faut pas l'étayer, quoi, t'as tout dit, quoi.
Faut partir sur
l'autre. Bon, bah voilà.
Non, mais j'ai rien de plus à ajouter, hein, si t'as d'autres trucs.
Sujet de dispute. Je pense qu'on y arrivera.
Peut-être revenir sur cette. Alors, je sais si t'as pas vu In Another Country, mais non. Dans In Another Country, il y a Isabelle Huppert qui, pendant tout le film, cherche un phare. Et en gros, elle demande à toutes les personnes qu'elle croise Lighthouse, have you seen the lighthouse? Et donc, le fait que Jane Birkin fasse une petite apparition dans le rôle, dans son propre rôle d'ailleurs, au début du film, est un petit clin d'œil, puisqu'elle cherche donc un quartier, elle va lui demander dans un anglais, qui est l'anglais de Jane Birkin, qui est meilleur que l'anglais d'Isabelle Huppert d'ailleurs, entre guillemets, que Isabelle Huppert aussi jouait très bien en anglais dans des très bons films américains. Et donc voilà, là c'est dès le début une première citation de son propre cinéma. Et en fait, ce qui est assez étonnant dans A Woman and Her Hommes, et ça, il me semble que c'est assez inédit, parce que autant il se répète beaucoup, et on va le voir dans la deuxième partie, il y a énormément de clins d'œil à sa propre filmographie, et notamment l'utilisation de la 7e symphonie de Beethoven, qu'il avait utilisée dans Night and Day, qui reprend ici de manière un peu plus ironique, un peu moins ostentatoire, justement, avec un personnage qui l'écoute dans un transistor, il dit que c'est une nouvelle interprétation, et c'est une version un peu en valse qui est assez foireuse quand même. Enfin, désolé pour le musicien qui s'est occupé de l'orchestration, mais en tout cas, le film est ponctué de clins d'œil à son cinéma. Lui, on retrouve un personnage de A.A. Qui fait son retour, enfin un couple marié, donc j'aurais dû noter le nom de l'acteur qui est aussi dans The Day He Arrives. Là je regarde Julien pour savoir s'il l'a noté, mais non, t'as pas noté.
Mais c'est vrai qu'il joue dans pas mal des derniers films, donc Song Soo, et justement je reviens sur ces clins d'œil, mais ce serait pas un petit peu narcissique ces autocitations?
Alors moi je trouve que justement ça apporte quelque chose à son cinéma qui est un peu une certaine forme de récompense du spectateur qui va un peu voir ce qui se passe, comprendre qu'il fait référence à son propre film, qui rejoint une des thématiques essentielles de Song Soo, qui est l'enfermement dans un même cycle perpétuel qui donne une impression d'oppression dans ses films, mais en même temps qui offre un décalage ironique du fait que on va se souvenir de cette scène parce que il l'a déjà utilisée dans un autre film. Et moi ça me fait penser un peu, alors là vous allez voir si vous êtes d'accord ou pas, aux séries de Larry David, qui est le créateur de Seinfeld, qui utilise énormément ça, c'est-à-dire qu'il y a des clins d'œil aux épisodes précédents, à un fait, une répétition, ils utilisent la même le même gimmick, et ça crée à la fois un clin d'œil et à la fois un enfermement social qui fait que les personnages sont légèrement décalés par rapport aux conventions sociales, et qui crée aussi un mal-être et des scènes extrêmement mal à l'aise, qui mettent en tout cas les personnages dans des situations extrêmement mal à l'aise, jusqu'on sait dans des scènes très banales, on va dire, de dîner, qui peuvent prendre des proportions de malaise social assez disproportionné, quoi, justement dans son cinéma. Donc voilà, je trouve que c'est pas narcissique, mais au contraire ça englobe le spectateur dans une des thématiques essentielles de son cinéma.
Mais est-ce à dire que qu'il faut forcément connaître le cinéma d'Aung San Suu pour apprécier ses films d'aujourd'hui? Est-ce qu'on peut découvrir Ewan et des hommes avec un œil vierge, ou alors est-ce qu'il faut, pour prendre un véritable plaisir, avoir vu notamment In Another Country, Night and Day ou autre? Est-ce que ce principe de citation est devenu pour lui une sorte de clin d'œil à ses seuls habitués?
Tu m'ôtes les mots de la bouche, là.
Ouais. Moi, je pense que oui. Enfin, honnêtement, si j'ai l'impression que c'est un cinéaste qui fait plus une œuvre que des films qui, pris individuellement, sont beaucoup moins forts que pris dans une œuvre collective. et que effectivement c'est pas forcément très facile d'accès et qu'il faut avoir certaines clés pour apprécier son cinéma. Donc oui, c'est d'une certaine manière un cinéma d'initié, ouais. Et surtout à Où on est les hommes, j'ai l'impression,
qui est un petit peu élitiste, quoi.
En tout cas initié, enfin, je pense qu'il faut avoir vu, il faut avoir vu ces films, quoi. Après je sais pas justement, bon, on en reparlera peut-être après sur l'ensemble de sa filmographie, ouais. Mais est-ce que vous conseillerez à Où on est les hommes à quelqu'un qui n'a jamais vu de Hong Sang-soo?
Très sincèrement, pour moi c'est un de ses films les plus faciles d'accès, même si je n'ai pas vu le précédent, mais par exemple je le trouve plus simple que un autre film que j'aime beaucoup, Matin calme à Séoul. Je trouve qu'À Où on est les hommes peut séduire quelqu'un qui tomberait dessus presque par hasard. Parce qu'il y a, enfin on parlait de clarté au début, mais je trouve que la petite histoire de cette jeune fille a quelque chose d'assez universel, d'assez émouvant en elle-même. Enfin, j'ai vraiment l'impression qu'il ne fait pas un film de grand cinéaste, quoi. J'ai vraiment l'impression qu'il est... on parlait de modestie avant de préparer, exactement, avant de commencer ce podcast, et j'ai l'impression qu'il y a vraiment une forme de modestie du grand auteur reconnu dans les festivals Hong Sang-soo, qui a simplement envie de faire un film qui lui tient à cœur et de l'offrir de la manière, je trouve, la plus humble qui soit. Et moi, j'aurais tendance à ne pas le déconseiller à un profane.
C'est même un caractère attachant. Puis ça fait une belle entrée dans la filmographie du réalisateur. On pourrait même penser qu'on puisse commencer la filmographie à l'inverse, finalement, en commençant ses dernières réalisations qui sont parmi les plus accessibles, et revenir petit à petit en arrière jusqu'à ses tout premiers qui sont vraiment un petit plus autoristes et entre guillemets élitistes
Moi je trouve qu'ils soient forcément plus élitistes, mais ils sont beaucoup plus noirs, ils sont beaucoup plus, plus sombres, plus difficiles à regarder. Il n'y a pas d'humour déjà, en tout cas dans le jour où le cochon est tombé dans le puits, c'est de l'humour très noir, voilà.
Puis, oui,
y a du meurtre, il y a des scènes de sexe qui sont extrêmement glauques, c'est pas du sexe très, très joyeux chez Hong Sang-soo, alors que là, c'est plus... c'est beaucoup plus clair, effectivement.
Alors que c'est un film profondément triste, quand même, sur le fond, en tout cas. Hein.
Et aussi très drôle.
C'est qu'il y a beaucoup de ruptures de ton, et c'est ce qui fait son intérêt. Alors que... Bon, après, il faut donner... carrément un exemple, parce que pour que ça soit vraiment plus explicite, mais par exemple il y a une scène où il y a la Aiwan qui est avec un couple justement dont il y a le mari, enfin il y a la femme qui vit avec le mari une situation extra-conjugale depuis 7 ans. Ils sont sur le fort de Namsan et elle vient d'annoncer tout juste qu'elle va se marier justement avec ce professeur qui enseigne à Chicago. Là, ils sont super contents, là, c'est vachement convivial, dynamique. Et là, tout d'un coup, Taiwan qui balance au mari, et sinon, ça va comment ta dépression. Donc là, bon, c'est cette rupture de ton qui fait que, justement, on ne s'y attend pas du tout, on est super, c'est très surprenant. Et ce qui fait aussi l'un des intérêts des métrages. Et il y a beaucoup de scènes qui vont dans ce sens, et qui font des ruptures de ton, et justement, qui amènent un intérêt pour le film. Ouais, je me répète un peu, mais bon, faut le voir pour
reparler d'autocitation, mais ça, on a déjà eu cette discussion hors micro, mais bon, vous allez pouvoir en profiter. C'est vrai que c'est aussi la scène que tu viens de citer, une scène qu'on retrouve avec le même personnage en fait dans AA. Donc là aussi, il joue avec l'effet de clin d'œil. En même temps, et là je reviens un peu sur ce que j'ai dit, même si on voit cette scène pour la première fois sans savoir que ça fait référence à un autre film, je pense que la scène est suffisamment drôle en elle-même, enfin se lit sur les deux, les deux niveaux.
Ouais. Je me souviens même pas de la scène de AA, pourtant, enfin, franchement, j'ai fait un bon éclat de rire, c'était
vraiment... Mais le fait d'avoir vu ces autres films apporte un plus, par exemple, elle se fait draguer par ce professeur américain, et dans... Je suis pas sûr parce que j'ai revu quasiment aucun film d'Hong Sang-soo, donc j'ai des souvenirs qui se mélangent un peu.
Vas-y.
Mais il me semble que c'est dans The Day He Arrives, Matin calme à Séoul,
ouais,
où un personnage explique à l'autre ses techniques de drague, et il dit, voilà, pour draguer une femme, il faut toujours commencer par dire quelque chose de négatif.
C'est ça.
Et donc là, ce personnage de professeur, donc ça je l'ai noté, de professeur coréen, lui dit qu'elle donne une impression d'être froide et distante,
ouais,
et égocentrique. Et ensuite, il dit... Et tout de suite, tu bascules dans l'inverse, tu dis quelque chose de bien, mais d'ultra général, dans lequel toutes les femmes vont se reconnaître. Et là, il lui dit qu'elle a un grand caractère, qu'elle veut faire quelque chose qui la dépasse, il part dans une généralité. Et donc, on se rend compte, quand on a vu Matin calme à Séoul, qu'il ressort une vieille technique de drague que Hong Sang-soo lui-même a démontée, et en même temps, la scène peut très bien marcher aussi au premier degré, puisque elle est séduite... on part par ce mec qui utilise la chose donc, qu'a démonté Hong Sang-soo lui-même, qui parle à Scorsese au téléphone, donc qui lui parle de rewriting de son scénario. Voilà, mais en tout cas, quand on a vu le film précédent, ça, voilà, y a quelque chose, en plus qu'on peut ressentir, quoi, et qu'on peut penser sur le film.
Et on peut même penser au cheminement inverse, c'est-à-dire qu'une personne qui découvrirait Ewan et qui verrait cette scène, et qui ensuite serait assez curieuse pour découvrir ses précédents films, pourrait rire en se disant que finalement, voilà quoi, il y a quelque chose qui se tient
de connexion, film en film. Ouais.
Donc voilà, ça, c'est presque un cinéma à prendre dans tous les sens, quoi. Donc
ils résonnent entre eux, quoi. C'est ça qui est.
C'est ça.
C'est qui fait leur force, entre guillemets.
Bon, justement, on va passer à la troisième partie de ce podcast sur laquelle on va revenir sur l'ensemble de la filmographie. Et je sais pas si justement vous avez d'autres choses à rajouter sur Wonder Woman, ça peut très bien entrer dans cette troisième partie. À tout de suite.